en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurie Plisson,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. L'album commence par un titre très court, La vie, l'amour, la mort, écrit en un seul mot, s'il vous plaît. Il se termine par une chanson qui s'intitule Le Remède, avec cette recommandation en guise de refrain. Regarde au loin et se dessine un nouveau matin. Ne regarde pas tes erreurs qui se bousculent en bas, car le temps qui passe, c'est un remède à la vie. Et au milieu, il y a l'amour, les rêves, l'enfance, la tristesse, la folie. Bref, il y a cette vie qui est longue jusqu'à l'autre rivage, comme elle le chante dans un titre intitulé Étoile noire. Alors je ne sais pas si la vie est vraiment longue, en tout cas c'est un véritable hymne à la vie que nous livre Isia dans ce nouvel album plein d'énergie et de couleurs, dont les mélodies vitaminées nous invitent à bouger, à avancer malgré les difficultés, à croire en soi et en l'avenir, à croire à la joie et au bonheur. La Vitesse, le cinquième album d'Isia, vient de sortir chez Naïve, et vous m'en direz des nouvelles.
Continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur, et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre. Crache tes poumons, fais tomber la fièvre. Mon cœur, si je suis déjà fatigué par les coups qui te détraquent, pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre. Mon cœur par les coups qui te détraquent, pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre, fais sauter le moniteur, mon cœur.
Bonjour.
Mon cœur, c'est le premier single tiré de ce nouvel album. Alors, il suffit de l'écouter pour qu'on se dise que c'est un tube en puissance, peut-être cet été sur les dance floors. Ce disque, c'est un peu le disque du plaisir retrouvé après les années les mois de pandémie difficile.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est le disque d'avoir envie de se faire plaisir et de faire ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment beaucoup de liberté dans cet album. C'était une vraie fulgurance, ce disque, qui s'est fait en 5 semaines. Donc c'est un album très particulier. Ouais.
Le plaisir, c'est un moteur pour vous dans votre vie d'artiste?
Moi, je pense que c'est important d'avoir du plaisir, ouais, c'est sûr. de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, de la liberté. Oui, moi, j'ai plus envie de souffrir, en tout cas.
Oui, mais c'est un objectif ou bien c'est un moyen pour parvenir justement à ce que vous écrivez, à ce que vous chantez ou
bah, moi, je ne crois pas du tout à la règle de faire les choses dans la douleur pour tirer le meilleur de soi. Je suis vraiment dans l'autre équipe.
Alors, il y a un vers dans cette chanson sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Pas une fois, elle t'a quitté cette foutue envie de te battre.
Ouais.
Vous avez été quand même tenté de tout quitter, d'arrêter de vous battre ?
Non, justement.
Jamais.
C'est ce que je dis.
Oui, bah absolument. Mais...
non, j'ai
vous n'avez pas lutté contre cette tentation ?
Non, même si j'ai été fatiguée et un peu au bout du roule, mais non, j'ai jamais envie d'arrêter de me battre, non.
Bon, en tout cas, c'est vrai que le Moïsia est synonyme d'envie, d'énergie. La plupart des papiers dans la presse sur vous insistent là-dessus. Il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot tornade. C'est un mot qui vous définit bien.
Une tornade quand même maîtrisée dans l'émotion. Voilà, j'ai beaucoup d'énergie, c'est sûr, mais... Oui.
Et où est-ce que vous l'appuisez, cette énergie, Isia ?
Je ne sais pas, c'est mon tempérament, c'est ce que je suis. Depuis toujours, j'ai toujours été comme ça, depuis que je suis petite.
Alors, il y a aussi des accidents de la vie, des barrières qui se dressent sur le chemin de nos vies à toutes et à tous. Et vous y revenez d'ailleurs dans une chanson « Étoile noire ». Racontez-nous, Isia, quelles sont les étoiles noires que vous avez laissées derrière vous dans le ciel ?
Quoi ? Je comprends pas la question.
Les étoiles noires dont vous parlez dans la chanson, quelles sont-elles ?
Rien, je dis que c'est difficile, que étoiles noires, tout est mort dans le ciel. C'est-à-dire que les étoiles noires, c'est les étoiles qui sont en fin de vie et que tout est mort dans le ciel ce soir et qu'il n'y a que toi qui prends feu ce soir. C'est que voilà, en gros, ce qui nous attend n'est pas forcément très positif et la lumière, elle est en soi et le feu, c'est nous-mêmes, quoi.
Alors, il n'est pas noir ce disque, il est rouge.
Oui.
C'est la couleur qui pète, un rouge qui brille sur la pochette avec les photos de Pierre-Ange Carlotti. C'est donc un disque vif. Pourquoi est-ce que c'est un disque rouge ? Par hasard.
Si, c'est un hasard, parce que...
Mais il ne pouvait pas être gris, ce disque,
non,
on est d'accord,
il pouvait
pas être vert non plus.
Non, il ne pouvait pas être bleu.
Donc il était forcément rouge.
Ouais.
Comment ce rouge s'est-il imposé ?
Je ne sais pas, c'est Pierre-Ange qui a eu l'idée de ce vinyle rouge. Et en fait, on avait un fond rouge, un fond noir, un fond blanc, et le rouge Le rouge est ressorti de lui-même, évidemment.
Alors là, c'est un rouge vif, en plus. Et c'est vrai que le mot « vie », c'est l'un des mots, quand on écoute le disque et quand on lit les paroles, c'est l'un des mots qui revient le plus souvent sous votre plume, le mot « vie ».
Le mot « vie » ?
Oui.
Ouais, c'est marrant, il y a le mot « vie », il y a le mot « peur » aussi.
Vous associez les deux, d'ailleurs ?
Non, mais parce qu'en fait, je dis souvent aux gens d'abandonner leur peur, et enfin... Où je dis ça dans mes textes, non, j'associe pas du tout les deux. Moi, j'ai pas peur de la vie, j'ai peur de la mort. Mais c'est un peu pareil, mon père, il me disait, si t'as peur de la mort, t'as peur de la vie. Donc, non, mais je sais pas, je... Oui, la vie, évidemment, ça... C'est très important pour moi, la liberté, la vie.
Bon, en tout
l'amour,
cas, ça...
la mort.
Ouais, et ça résonne avec le titre de la dernière chanson de l'album, Le Remède. On écoute, on en parle dans un instant.
Encore un jour où tout s'achève. Encore un jour, mais je me lève. Pourras-tu enfin me dire, pourras-tu enfin me dire comment faire pour arrêter d'être triste. Encore une nuit où je m'achève. Encore un verre et je m'arrête. Pourras-tu un jour me dire, pourras-tu un jour me dire comment on fait pour arrêter de grandir. Regarde au loin, il se dessine un nouveau matin. Regarde-moi, je te jure. Bouscule en bas, car le temps qui passe, c'est le remède à la vie. Encore des jours pour tout comprendre. Encore le temps. Mais j'appréhende. Pourrais-je enfin m'en sortir? Pourrais-je enfin me sortir de cette peine qui accompagne ma vie? J'attends sagement que tout commence. J'attends sagement, mais je m'impatiente. Pourras-tu enfin me dire, pourras-tu un jour me dire quand ça démarre vraiment la vie. Regarde au loin, il se dessine un nouveau matin. Regarde-moi, je te jure que tout ira bien. Non, ne regarde pas tes erreurs qui se bousculent. Car le temps qui passe, c'est le remède à la vie.
Le remède, Izia, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI, extrait de son nouvel album La Vitesse, qui est sorti vendredi dernier chez Naïf. Comment vous est-elle venue cette chanson, Izia ?
Je pensais à mon père, j'étais sur la terrasse de La Frette, là où on en enregistrait l'album, et je regardais le ciel et... Et je pensais à mon père et je me disais que voilà, le deuil ne passe jamais, que le seul remède à la vie, c'est le temps, en fait. Enfin, je sais pas, j'avais toute cette pensée-là qui me venait. Et Bastien était en train de jouer du piano dans la maison et je l'ai rejoint.
Bastien Burger, votre compagnon d'écriture.
Ouais. Et je l'ai retrouvé dehors et on a fait cette chanson. Et j'aime me dire que c'est mon père qui m'a soufflé cet air et cette chanson, voilà.
Alors la Frette que vous évoquez, c'est la Frette sur Seine, on est dans le Val d'Oise, on est au nord-ouest de Paris, dans la grande banlieue. C'est un studio d'enregistrement, c'est la première fois que vous sortez, Izia, un album écrit directement en studio, en résidence.
Ouais.
Comment on dit, comment vous est venue justement cette idée de changer un petit peu votre façon de procéder ?
Parce que toutes les autres façons de procéder que j'avais fait jusqu'alors étaient quand même... pas hyper, ça s'était pas hyper bien passé tout le temps. Moi, j'ai pas une très bonne expérience du studio. Enfin, j'aime pas quand ça dure trop longtemps, en fait. J'aime pas quand les choses prennent trop de temps. Puis même, tu fais des albums sur un an et demi, t'as des premiers morceaux que t'as fait d'une première génération de titres qui ressemblent plus du tout à ceux de la fin. Enfin, une incohérence un peu, je trouve. Et j'ai toujours rêvé, voilà, de faire un album dans un cadre de travail. Moi, j'ai besoin d'être dans un cadre de travail pour travailler. Je suis pas du genre à travailler chez moi ou des trucs comme ça. J'ai besoin d'être en studio pour bosser. Et voilà, pour moi, c'était, j'avais envie de tester cette manière d'écrire comme mon père dans les années 80 à Hérouville.
Voilà, alors Hérouville, donc c'est un château. Hein, donc on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps dans l'émission parce qu'il y avait une bande dessinée, je ne sais pas si vous l'avez lu, Les Amants d'Hérouville de Thomas Cadenne et Yann Le Kellec chez Delcourt, qui racontait l'histoire de ce studio incroyable, effectivement, d'enregistrement où des très grands noms de la musique internationale sont passés, hein, Pink Floyd, Bowie, Hallyday, Elton John, Iggy Pop, Eddie Mitchell, Magma et Jacques Higelin, votre papa, vous en avez parlé ?
Ouais, vachement. Il m'en avait vachement parlé. Moi, j'étais pas née à cette époque-là encore, mais voilà, il m'avait parlé un peu de comment s'était passé cet enregistrement et tout, et voilà.
Et donc là, vous avez voulu vivre à votre tour un petit peu ce que lui, il avait vécu au château d'Hérouville, mais dans ce studio de La Frette-sur-Seine ?
Oui, un peu, oui.
Et donc, vous vous êtes enfermés tous les deux avec Bastien Burger pendant combien de temps en tout, puisque vous disiez qu'il fallait aller très très vite ?
On a fait 3 semaines d'affilée, 3 semaines et demie d'affilée, et on a fait 2 fois 5, ouais, en tout 5 semaines, un truc comme ça.
Oui, 5 semaines, effectivement, c'est pas beaucoup pour un album. Donc, comme d'habitude, les mots, c'est vous, la musique, c'est lui et c'est vous en même temps. C'est comme ça que ça s'est passé ?
Ouais, c'est ça. Les mots, ouais, les paroles sont de moi. Et la musique, oui, ça dépend. Soit Bastien, il arrive avec une prod qu'il a fait, il me fait écouter, moi je pose une mélodie dessus. Soit je lui montre un petit truc et puis après on continue ensemble. Soit, oui. C'était marrant, on avait plein de petits ateliers pendant la création de l'album, c'était vraiment joyeux, il était dans un coin en train de faire du synthé, tout ça, puis moi à côté, j'ai trouvé une mélodie pour autre chose, enfin, ça avançait comme ça.
C'est de la mélodie que démarre l'aventure d'une chanson ?
Non, ça dépend, c'est de la mélodie, c'est de la production... Ça dépend.
Et donc là, en fait, on fait tout en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on écrit, on compose, on pose sa voix en même temps.
Exactement.
On écrit mesure par mesure. C'est un travail un petit peu artisanal, si je sais.
C'est assez artisanal. Et puis, je vais écrire un premier texte. Et Bastien, il sera en train de terminer un truc, je sais pas trop quoi. Et je vais le voir. Je fais, attends, il faut que je teste ce texte. Alors, du coup, je chante. Et puis après, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je recommence autre chose. Enfin, c'est vraiment de l'artisanat, quoi.
Oui. Ça veut dire quoi, justement, si ça marche ? Comment est-ce que vous sentez que quelque chose marche ?
Bah, c'est
une vaste question, vous allez me dire, mais c'est pas facile de, répondre. Mais à quel moment vous vous dites, ah là c'est bon, on a un truc, on arrête là, c'est pas la peine de continuer à retravailler, on le tient.
Bah, je sais pas, c'est mon travail.
Est-ce que vous diriez que vous avez une façon instinctive justement de construire un album ? Est-ce que l'instinct est un élément qui vous guide ?
Oui, alors en tout cas, c'est sûr que j'ai pas beaucoup réfléchi pour ce disque. Mais globalement, je réfléchis pas beaucoup.
On a grandi ensemble, main dans la main, comme deux enfants qui s'aiment. Souvent je t'ai entendu dire, j'élève pas ma fille, je m'élève avec elle. On a eu la vie royale, on a eu la vie royale. Jeune fille dans la flot de l'âge, c'est toi qui apaisais ma colère. C'est fou quand même la chance qu'on a eu d'être réunis au milieu du bordel. On s'est fait la vie royale, on a eu la vie royale. À toutes ces fois où je me suis voulu, et toutes les autres fois où je ne t'ai pas entendu, ça m'a fait le coup 1000 fois mais j'ai pas relevé. La vie m'a pris de court et j'ai appris. À toutes ces fois où je me suis voulu, et toutes les autres fois où j'ai pas attendu, ça m'a fait le coup 1000 fois mais je me suis relevée. La vie m'a pris de court mais j'ai appris. Inséparables âmes sœurs, moi je croyais qu'on était immortels. Un jour j'ai pris mon envol vers le ciel et tu m'as laissé faire, libre comme l'aigle roi. Toujours, mais tu ne savais pas comment soigner mes failles. On pensait qu'on aurait plus de temps pour guérir avant que tout déraille. On s'est fait la vie royale, on avait la vie royale.
suis voulu. Et toutes les autres fois où je ne t'ai pas entendu, ça m'a fait le coup mille fois, mais j'ai pas relevé. La vie m'a pris de court, mais j'ai appris. À toutes ces fois où je m'en suis voulu, et toutes les autres fois où j'ai pas attendu, ça m'a fait le coup mille fois, mais je m'en suis relevé. La vie m'a pris de court, mais j'ai appris.
Royal, quel joli titre et quel joli mot pour rendre hommage à la vie que vous avez menée avec votre père. Isia, hommage évidemment à Jacques Higelin, puisque c'est à lui que vous vous adressez dans cette chanson. Pourquoi, comment le mot royal est-il venu justement sous votre plume?
Parce que je voulais dire, on s'est fait la grande vie, en gros. C'était l'idée que j'avais envie de dire dans l'idée, enfin dans les propos de cette chanson. Et royal. Royal, je trouvais que c'était, on s'est fait la vie royale, on était royal, royal au bar, quoi, royal. Et lui, c'est lui qui est royal aussi, donc c'est royal dans son comportement, dans comment il était avec les gens, avec moi. Il y a un truc royal dans notre amour, dans notre transmission aussi.
Ça veut dire que vous étiez sa princesse ?
J'étais un peu sa reine aussi, je sais pas.
Parce que vous parlez d'âme-sœur, justement. C'est rare, l'âme-sœur entre une fille et un père.
Bah oui, non, mais en fait, c'est parce que je pense que mon père et moi, on a toujours été dans des autres vies proches. Et je pense que ce que je dis dans la chanson, je dis, c'est fou quand même la chance qu'on a eue d'être réunis au milieu du bordel. Je parle du bordel de la vie. Et je dis, c'est quand même incroyable la chance que j'ai eue que ce soit lui, mon père, et moi, sa fille. Enfin, je veux dire, parce qu'en plus d'être père et fille. En plus, on était fous amoureux, mais dans un truc absolu d'amour, évidemment pas incestueux. Je sais même pas Lemon Incest de Gainsbourg et Charlotte, mais c'était même pas ça. C'était genre, on était fous en amour l'un pour l'autre.
J'ai appris. Ce sont les derniers mots de la chanson. Hein. Ils reviennent régulièrement dans ce texte. Qu'est-ce qui vous a appris, votre papa ?
Non, c'est en fait. C'est pas ce que je dis dans la chanson. Dans la chanson, je dis la vie m'a pris de court, mais j'ai appris en fait. C'est la vie m'a pris de court avec sa mort, et même la vie m'a pris de court avec le fait d'attendre un enfant quand il meurt, enfin, tout ce genre de choses là. La vie m'a pris de court et j'ai appris. Enfin, j'ai complètement été saisie par tout ça et c'est une leçon absolue d'avoir tout ça dans sa vie.
Bon, mais je vous repose la question quand même, parce que moi j'ai très envie d'apprendre ce que le papa a appris à sa fille, et en tant que père, et en tant qu'artiste, puisque vous êtes aussi issu de tout cela.
Tout, hein, absolument tout, la liberté, l'amour, le respect, la générosité, l'intelligence, la folie.
Alors il vous a...
Les bases de la vie, quoi.
Il a raconté que... Comme il vous avait eu assez tard, à 50 ans, je crois, il avait pris le temps de s'occuper de vous, de vous lire des histoires pour vous endormir quand vous étiez petite. C'était quoi votre histoire préférée ?
On lisait vachement les Schtroumpfs. On lisait des bandes dessinées. On lisait Lucky Luke, on lisait les Schtroumpfs. On lisait Gaston Lagaffe.
Très bande dessinée, en fait. Plus que conte pour enfants.
Non, après, il m'a lu Le Hobbit. Il me lisait... Oui, Le Seigneur des Anneaux, enfin oui, un peu. Mais parce qu'il m'a lu des histoires jusqu'à très tard. Hein. On passait des plombes à tchatcher le soir, on jouait de la zik, on était assis sur mon lit, on partageait des moments comme ça. Après, il me racontait des BD, des trucs. Je sais pas, ouais, c'était... Puis on se marrait comme des fous, voilà.
Bon, il vous a beaucoup joué de musique, ouais. Évidemment. Est-ce que vous êtes né dans la musique ? Vous êtes presque né sur scène avec lui, Olivia ? On peut dire ça comme ça ?
Ouais, c'est vrai. Bien sûr, quand je le voyais sur scène quand j'étais petite, j'avais l'impression d'avoir jamais vu. Pour moi, un concert, c'était ça.
Donc, vous avez appris votre métier d'aujourd'hui sans vous en rendre compte.
C'est ça. Façon. Exactement.
Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite.
Exactement.
Ouais. Être fille d'eux, comme on dit, est-ce que ça vous a pas parfois un petit peu pesé ?
Non, pas du tout.
Ni frère d'eux avec Ken et
encore moins.
Et Arthur H. Encore moins.
Non, ça ne m'a pas du tout pesé, non. Bien au contraire, ça m'a élevé.
Votre album précédent, Isia, s'appelait Citadelle. Il était très marqué par le décès de votre père, mais aussi par la naissance de votre fils, Bella. Qu'est-ce que vous aimeriez que Bella dise de sa mère plus tard ?
Je sais pas, là, il est venu au concert et tout, c'était génial. Il était à donf. Bon, rien que je déchire.
Et quand vient le stress,
je prends de la vitesse.
On parlait de dance floor tout à l'heure, Isia, là on y est à nouveau de retour. Là, quelle énergie, hein, une nouvelle fois.
Merci.
C'est la chanson la plus ado de l'album, Isia.
Ado ?
Oui.
Pourquoi ado ?
Bah, parce qu'on sent ce plaisir de vie, ce plaisir très juvénile finalement, qui,
ah oui,
est celui de, qui est celui de la vie. Et puis
ah,
cette envie
marrant
de performance, envie de...
C'est cool,
envie
non,
de
j'aime bien.
Vous ne trouvez pas ?
Ah oui, si, je ne m'étais jamais fait la réflexion, je trouve ça intéressant. C'est vrai. Mais de toute façon, j'ai toujours l'impression d'avoir 14 ans et demi, hein, globalement, aussi.
Oui, oui. Ouais. Très clairement, oui. Vous n'avez pas envie de grandir ?
Pas trop, mais ce n'est pas le projet.
Non, ce n'est pas le projet. Donc, il ne faut pas aller trop vite, alors, si vous n'avez pas envie de grandir. Il y a un petit paradoxe, là, quand même, dans ce que vous
dites. Parce que rester jeune et adolescent, c'est aller à toute vitesse, tout le temps, je pense, à croire qu'on est immortel. Mais parfois, je vois des vidéos de femmes de mon âge et tout ça, et je suis là, mais ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de... de pas ressembler du tout à...
Oui, c'est vous qui êtes jeune ou c'est les autres qui sont vieilles?
Mais personne n'est vieux, personne n'est vieille, mais c'est genre, je sais pas, la dernière fois, mon fils, il me dit, mais promets-moi, maman, tu seras jamais vieille. J'étais, non, mais clairement, hein, c'est, de toute façon, c'est...
D'accord, vous êtes engagé tout de suite devant lui, ça, vous n'avez pas dû hésiter longtemps.
J'ai dit, je pense que physiquement, bon, ce sera un autre dos, mais dans la tête, non, je pense que maman, elle sera jamais vieille, c'est sûr.
Bon, c'est la 9e piste de l'album, La Vitesse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'en faire le titre aussi de l'album?
Bah pour ce que le texte raconte, pour moi, c'était important... Ce truc, cette notion aussi de plus rien en foutre, j'en ai rien à foutre, de dire, voilà, de prendre de la vitesse, de tracer, de pas regarder les autres en bas, en haut, prendre du recul, prendre de la hauteur.
Mais à qui vous avez envie de dire aujourd'hui, j'en ai rien à foutre?
À beaucoup de gens. Hein.
Alors, citez-les alors.
La meuf qui sort son parchemin comme ça. Alors, non. À qui j'ai envie de dire ça? Non, mais que j'en ai rien à foutre, mais globalement à moi-même aussi. Putain, j'arrête pas de dire globalement ce soir, c'est intéressant.
Ouais.
À moi-même, je pense aussi, parce que de se dire qu'on en a rien à foutre, en fait, du regard des autres, du temps, de pas s'encombrer de choses, de s'obliger à faire des choses, à faire tel ou tel truc, que finalement rien n'est grave, hein.
Mais à l'ère des réseaux sociaux, des vidéos, des photos postées à tout va, est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui dire aux autres, j'en ai rien à foutre du regard des autres, et j'en ai rien à foutre du regard et des retours que l'on peut faire et sur vous et sur ce que vous dites et sur votre activité artistique?
Non, mais je pense que c'est important de mettre des limites. Il y a des choses qu'on doit faire parce que c'est un peu le travail, mais c'est bien de se mettre des limites. Moi, là, par exemple, ce week-end, j'avais pas envie de raconter ma vie. Bon, j'ai posé mon portable. Enfin, je veux dire, c'est important aussi de... Mais quand je raconte des trucs dans des chansons, quand je dis dans une chanson j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre plusieurs fois d'affilée, en général c'est aussi des trucs de mantra, un peu de trucs de méthode Coué, de se dire j'en ai rien à foutre.
Pour vous convaincre vous-même de pouvoir trucs, avancer comme vous
exactement,
le pensez.
Exactement, moi mes chansons c'est des prières pour les autres, mais c'est des prières pour moi aussi.
Alors La Vitesse c'est un titre très rock, un peu rageur, un peu fiévreux, et c'est vrai qu'au fil des sorties d'albums, vous avez mis un petit peu d'eau dans votre vin quand même, Isia, puisque votre premier album en 2009 était très rock'n'roll, très années 60-70, le côté un peu Janis Joplin ou Led Zepp, et petit à petit, surtout à partir de 2015, vous avez pris un tournant plus pop, et ensuite un peu plus électro aussi. Est-ce que ça correspondait justement à des virages de style qui correspondaient aussi à votre état d'esprit changeant?
Exactement. Je pense qu'un album, c'est un album qui fait partie d'une carrière et d'une discographie. Et je pense que c'est hyper important de se réinventer si on veut rester heureux. Bon, moi, je suis tellement quelqu'un qui est super perpétuellement dans le mouvement que... je pourrais jamais faire la même chose tout le temps, ou j'ai vraiment besoin de me réinventer, sinon je m'ennuie trop.
Si jamais l'on se quitte, si jamais... brûle encore.
Nos rêves, et elle est juste au milieu de l'album, cette chanson Isien. C'est la sixième piste sur les 13 que compte cet album. La vitesse, c'est un peu une respiration finalement au milieu de l'album. Il y a presque un avant et un après quand on les écoute dans l'ordre.
Ah oui,
vos chansons.
Ok.
C'est une forme de respiration, vous ne l'avez pas ressenti comme ça?
Bah, je sais pas, j'ai pas pensé à ça, mais oui, c'est une tracklist en fait. Ouais.
Parce qu'il y a effectivement une voix qui s'adoucit. À ce moment-là, on est très loin de la vitesse. Là, pour le coup, dans le style de chanson, pourquoi ces moments de tendresse, d'intimité, qui existent, hein, il y en a plusieurs autres aussi sur cet album, mais pourquoi sont-ils relativement rares finalement dans votre discographie?
Bah, je sais pas, parce que c'est mes chansons. Enfin, non, ils sont pas rares. Il y a Comment te dire, il y a Le Remède, il y a Nos rêves. Folle, qui est une respiration aussi.
On va écouter Folle justement. Dans
ouais, non, je pense ils sont pas rares. Au contraire, ils font vraiment partie de la multiplicité de mes facettes de musicienne. Je pense que j'ai vraiment plein de trucs différents à raconter, à dire. Voilà.
Alors, vous êtes musicienne, vous êtes compositrice, vous êtes auteur, vous êtes ou autrice, je sais pas que vous préférez. Vous êtes aussi interprète, Isia, puisque vous chantez et vous jouez la comédie aussi, hein,
ouais.
sur les écrans. Interpréter une chanson et interpréter un rôle, ce sont deux activités de même nature ou pas du tout?
Bah non. Non.
Lorsque non. Vous êtes sur scène, est-ce que vous interprétez un rôle au théâtre ou au cinéma comme vous interprétez une chanson? C'est le même mot.
Oui, mais non, quand je chante...
Est-ce que vous jouez sur scène une chanson comme vous jouez une scène au cinéma? On peut poser la question comme ça.
Non. Au cinéma, je suis au service d'un projet, j'écoute un metteur en scène, et quand je suis sur scène, je chante mes propres chansons, et c'est moi qui dirige ce qui se passe. C'est pas pareil.
Mais est-ce que vous jouez un personnage lorsque vous êtes sur scène?
Non. Non, je suis... Je suis globalement, encore une fois globalement, mon Dieu, mais c'est pas possible, globalement tout le temps la même.
Alors vous êtes une sacrée bête de scène, en tout cas tous les critiques le disent, Isia, vous allez en donner des concerts, hein, dans les mois qui viennent. Vous serez à Marmande dans le sud-ouest de la France au festival Glamrock, c'est ça ?
Garo Rock,
voilà, merci. Le 1er juillet, le 2 août aux Eurocaines de Belfort, le 7 à Normandie à Hérouville-Saint-Clair au festival Beauregard, le 16 aux Vieilles Charrues en Bretagne, évidemment à Carhaix, le 23 aux Nuits Secrètes d'Aulnoy-Aymeries, ça se trouve dans le Nord, on salue nos amis ch'tis, et le 17 région parisienne au domaine de Saint-Cloud pour Rock en scène. Les festivals d'été qui recommencent, là c'est un peu la vie qui renaît, ça vous a manqué?
Ouais, non, vraiment c'est joyeux. Je sais pas trop comment ça va se passer, je stresse un petit peu, mais...
Vous stressez toujours sur scène là?
Ah bah bien sûr, oui.
Pour quelle raison?
Je sais pas, c'est toujours bien d'avoir le trac. J'ai pas le trac, genre, je sais que ça va bien se passer en général, c'est... J'ai failli dire globalement encore, vous avez vu, je me suis arrêtée juste avant.
Oui, c'est pas mal, oui.
C'est très bizarre. je suis toujours... j'ai toujours le trac. Mais c'est bien, ça donne de l'énergie. Mais je sais toujours que ça va bien se passer. J'ai juste le trac, c'est tout.
Bon, et ensuite, à l'automne, tournée en solo, hein, là aussi quelques dates à annoncer, le 17 novembre à Nîmes, le 26 à Nancy, le 27 à Strasbourg, le 30 à Angers, et ça continue jusqu'à mi-décembre, et ça recommence à la mi-janvier. Merci beaucoup, Isia.
Merci.
L'album La Vitesse chez Naïve, on va se quitter avec ma chanson préférée, vous en parliez d'ailleurs vous-même il y a un instant, ça s'appelle Folle.
Merci beaucoup.
que t'imaginais, mais je ne serai plus jamais la même. Folle, je ne suis pas folle, je vole vers les étoiles et j'abandonne cette vie que tu m'imaginais, car je ne serai plus jamais la même.
Lysia dans VMDN sur RFI. On le connaît pour ses tableaux colorés, exubérants, pour son inspiration punk et proche de la bande dessinée aussi, mais qui est vraiment Hervé Di Rosa, l'artiste originaire de Sète dans le sud de la France, qui a laissé son empreinte dans le paysage artistique dès les années 80, à plus d'un reflet dans son miroir. Et l'exposition qui se tient en ce moment dans le sud-est de la France nous propose de réfléchir sur son parcours et de le voir sous un nouveau jour. Fanny Blechner nous embarque avec elle au musée d'archéologie de Valence.
Posée sur une étagère aux côtés de chapiteaux médiévaux, des poteries colorées au visage grimaçant. Plus curieux, un monstre tout vert, un groug en résine vous fixant de ses trois yeux la gueule grande ouverte. Des céramiques noires et blanches qui semblent répondre à la mosaïque antique sur le mur. Le visiteur attentif s'étonnera aussi de trouver des représentations de petits robots au milieu d'œuvres vieilles de plusieurs siècles. Les 200 créations de l'artiste Hervé Di Rosa sont dispersées avec malice au milieu des collections historiques. C'est Philippe Boucher, le commissaire de l'exposition, qui a mis en évidence ces correspondances.
Ce qui est assez formidable pour le visiteur, c'est de pouvoir regarder ce dialogue et s'interroger sur le rapport qu'entretient la peinture ancienne avec l'art contemporain, l'art contemporain avec l'archéologie et la peinture ancienne avec des objets éventuellement d'Hervé.
Hervé Di Rosa, artiste français qui s'est fait connaître dès les années 80 comme l'un des fondateurs de la figuration libre. Ici, il s'agit de donner un nouvel éclairage à son travail.
Il a fait les arts décoratifs, l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où au fond, il n'a pas été très présent, mais bien entendu que son regard est un regard qui est celui d'un classique. Donc ses sources d'inspiration, c'est-à-dire la bande dessinée, la culture punk, les comics, bien entendu tout ça est vrai, mais très rapidement, Hervé est quelqu'un qui est un consommateur d'images. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'image et à toutes les images. Donc il a vu beaucoup de choses, il a visité les musées bien entendu. Et donc au fur et à mesure, ça infuse dans l'œuvre et au fil du temps, il rend au fond ce qu'il a pu regarder dans son travail lui-même.
Son regard, ses gestes se sont aussi énormément précisés au gré de ses voyages, des séjours assez longs un peu partout autour du monde pour se former aux côtés d'artisans, notamment sur le continent africain. Il a commencé par apprendre la peinture d'enseigne au Ghana, à Kumasi.
Après, je suis allé au Bénin grâce à mon ami Romuald Azoumé, qui m'a aidé à monter un atelier de tissage, de couture en fait. J'ai travaillé aussi en Éthiopie, et là j'ai travaillé sur les peaux d'animaux. Et le projet qui a duré le plus longtemps, vous avez quelques pièces dissimulées dans le musée, qui est au Cameroun, à Foumban, avec les artisans de Foumban. Alors là, c'est carrément un travail avec un village entier, avec un quartier entier du village en fait.
Des bronziers, des spécialistes des perles, mais aussi différents types de tailleurs sur bois qui lui ont entre autres permis de réaliser des bas-reliefs. Ce que recherche à chaque fois Hervé Di Rosa, c'est la connaissance d'un savoir-faire, mais cela va en fait bien au-delà.
Parce que je suis persuadé que le médium, la technique, implique la manière de faire les œuvres. Par exemple, à Durban, avec les tresseurs de câbles de téléphone, il y a beaucoup de contraintes techniques, donc on ne peut pas faire n'importe quel dessin. Les gens ne peuvent pas faire une œuvre carrée, il faut que le soit ronde. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'inventer des contraintes que d'autres ont. Ce n'est pas des contraintes inventées comme dans l'art contemporain où on invente qu'on ne fait pas de peinture à vie rouge ou qu'on ne fait pas de peinture à vie bleue, je ne sais pas quoi. Là, c'est des contraintes réelles de nécessité. Et c'est lié à mon idée de l'art modeste où ce qui m'intéresse, moi, c'est des choses créées par nécessité.
Un art modeste, une attitude aussi, car si les œuvres d'Hervé Di Rosa sont protéiformes, lui ne réalise vraiment que ses peintures. Pour le reste, il travaille en étroite collaboration avec des artisans.
Et là, à ce moment-là, je suis un peu comme un chef d'orchestre qui se sert d'instruments que lui-même ne joue pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'histoire de l'impur, quoi. Parce qu'on parle tout le temps de pureté dans la peinture, dans l'art, nous sommes bêtes avec ça en ce moment. Et je trouve que c'est impur que la main de l'autre se mélange, en plus la main d'une culture vraiment assez très différente de la mienne, qui rentre et qui colonise un peu à son tour mon travail, quoi. Je laisse rentrer, je laisse agir.
Et l'artiste Sétois poursuit cette démarche. Il vit au Portugal depuis 8 ans, où il apprend la tradition de la peinture sur céramique, mais il entend bien programmer de nouveaux voyages.
Hervé Di Rosa, ses sources, ses démons, c'est le nom de cette exposition qui se tient donc en ce moment dans le sud-est de la France, à Valence, au musée d'art et d'archéologie. Et c'est jusqu'au 28 août. Merci de votre fidélité. Dans une poignée de secondes, le rendez-vous complet d'informations sur RFI, c'est le journal bien sûr. On se retrouve demain pour continuer à voyager en bande dessinée, cette fois avec l'autrice franco-coréenne Kum Suk Jeondri Kim pour son album La saison des pluies chez Futuropolis, un album très poétique qui nous parle des rapports pas toujours très simples entre les Sud-Coréens et les chiens. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.